Terpsichore.
C'est avec notre chère Anne.
Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Terpsichore, la chronique de la danse. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle de l'épidémie dansante de Strasbourg. Parce que jusqu'ici, on a parlé de la danse comme étant un acte délibéré. En effet, ça paraît logique que les gens choisissent de danser pour une raison particulière. Mais est-ce que vous saviez que le fait de danser de manière incontrôlée existait aussi? Ça s'appelle la manie dansante, ou chorémanie, ou encore épidémie de Saint-Guy. Et c'est de ce phénomène dont je vais vous parler dans cet épisode. Remontons 500 ans en arrière. Nous sommes à Strasbourg, durant l'été 1518. À cette époque, Strasbourg n'est pas une ville de France. C'est une ville qui est intégrée au Saint-Empire romain germanique. La population y est majoritairement catholique, et la religion est d'ailleurs source de grandes inégalités sociales. Pour faire bref, le haut clergé s'en met plein les poches, tandis que la plupart des citadins vivent dans la misère. C'est lors d'une journée de juillet qu'une femme du peuple commet l'irréparable. Elle met fin à la vie de son bébé en le jetant dans la rivière depuis le pont du Corbeau. Cette femme, elle s'appelle Frau Trophäa, elle est désespérée et elle vit dans la pauvreté, donc elle n'avait plus les moyens de nourrir son enfant. En revenant du pont, elle se met à danser de manière frénétique. Son mari la supplie d'arrêter, Madame Trophäa fatigue, elle a les pieds en sang, mais coûte que coûte, elle continue de se trémousser. Jusqu'ici, rien de bien étrange en soi, à part un fait divers glaçant. Mais l'affaire devient tout de suite plus bizarre lorsqu'en moins de 10 jours, ce sont 50 individus qui ont rejoint la danse de Frau Trophäa. Au bout d'un mois, ils seront 400. Le phénomène est épidémique. La danse est contagieuse, incontrôlable. Pourtant, l'atmosphère n'a rien de festif. Au contraire, l'ambiance est terrifiante. Femmes, hommes et enfants atteints de cette curieuse manie dansante implorent de l'aide. Ils crient, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils sont en transe, leur regard est vague, leurs mouvements ressemblent à des spasmes fatigués. En seulement quelques jours, les cas se multiplient et se répandent comme le ferait un virus. Certaines personnes vont jusqu'à mourir d'épuisement ou de problèmes cardiaques. Il y a un témoin de l'époque qui rapporte, par exemple, que jusqu'à 15 danseurs succombent chaque jour. Comme ce que Shakespeare appellera la peste dansante prend de l'ampleur, les autorités de la ville s'inquiètent et cherchent une solution. Pour les médecins, cette épidémie est due à un sang trop chaud, dans la logique des théories humorales de l'époque. À ce moment-là, on pensait qu'un sang trop chaud montant au cerveau pouvait causer des pulsions de colère, voire de folie. Quant à la population, elle pense que cette maladie a été envoyée par le diable. Le conseil de la ville décide donc de soigner le mal par le mal. Si les habitants veulent danser, alors qu'ils dansent. L'idée est de les encourager à danser pour qu'ils s'épuisent et que ce qui est interprété comme étant de la fièvre retombe. On engage alors des musiciens pour accompagner les danseurs jour et nuit. Une scène en bois est mise à leur disposition et des habitants sont chargés de les surveiller et de les nourrir. Mais tout ça, c'est une grave erreur, parce que la contagion est en fait favorisée par l'exhibition des danseurs et les autorités procèdent donc ensuite à la solution inverse, en interdisant toute musique. Finalement, l'épidémie prendra fin quelques semaines plus tard, quand les danseurs seront envoyés à Saverne, un endroit à une journée de route de Strasbourg, pour assister à une cérémonie en l'honneur de Saint-Guy, qui est le protecteur des malades de Corée. Donc la Corée, ça désigne les mouvements anormaux et involontaires du corps. Après ça, la manie dansante s'essouffle, et les danseurs rentrent chez eux peu à peu. Ce phénomène est donc très étonnant. Mais encore plus étonnant, c'est que c'est pas le seul cas qui a été recensé. On compterait une vingtaine d'épisodes dans le genre, entre 1200 et 1600, et le dernier aurait eu lieu à Madagascar en 1863. Mais alors, quelles sont les hypothèses qui pourraient expliquer cette folie? Plusieurs pistes ont été envisagées au cours du temps. On a pensé qu'il s'agissait peut-être des rituels d'un culte hérétique ou alors d'un cas d'hystérie collective. On a aussi songé aux symptômes de l'ergotisme, qui est une infection due à un champignon qui peut se trouver dans le seigle, un ingrédient fréquent du pain. Cette maladie produit des effets similaires à ceux que provoque le LSD, comme des hallucinations par exemple. Finalement, toutes ces pistes ont été réfutées, et c'est un auteur anglais, John Waller, qui a beaucoup enquêté sur l'épidémie dansante de Strasbourg, qui a proposé l'hypothèse du contexte. Il affirme que les phénomènes de transe sont susceptibles de survenir chez des individus vulnérables sur le plan psychologique, et qui croient au châtiment divin. Donc pour les châtiments divins, on est en plein dedans en ce début du XVIe siècle à Strasbourg. Et il faut aussi savoir qu'à cette date, la ville vient de subir des épisodes successifs d'épidémies et de famines, ce qui a très probablement fragilisé le mental des habitants. Donc tout ça pose des questions psychologiques et sociales très intéressantes sur le rôle du groupe, qui est capable de devenir une entité entière lorsque des individus synchronisent leur comportement. L'écrivain Jean Tellet, mort l'année dernière malheureusement, a aussi mené son enquête sur cette histoire et il a contribué à la populariser. Il a publié un livre intitulé « Entrer dans la danse » en 2018 qui a été adapté l'année suivante en bande dessinée. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un auteur qui aimait beaucoup l'histoire de France et qui a écrit de nombreuses histoires étonnantes comme celle-ci, sur de nombreuses histoires, pardon, ou sur des figures françaises comme Verlaine par exemple. J'ai lu pas mal de ses livres et il y en a beaucoup qui sont vraiment bien, comme « Mangez-le si vous voulez », qui parle un peu d'une histoire de folie comme ça, ou « Je, François Villon », qui parle du poète médiéval. Pour Jean Tellet, c'est le désespoir qui a poussé les gens à danser comme des fous. Ils auraient réagi de manière instinctive à la misère de leur époque.
Tout avait été bouffé. Et quand on en est à balancer son môme à la rivière ou à le bouffer, au bout d'un moment, il ne reste plus quoi. Il ne reste plus qu'à danser. On sait qu'il y a une femme qui, juste avant de danser, a dit une phrase terrible. Elle a dit « On n'a plus rien, allez, on danse. C'est notre corps, il nous appartient, on n'a plus que ça. » Et alors c'est « On danse à mort. » Et puis on se révolte contre rien, on danse comme des cons, on va en crever, mais de toute façon, on est tellement foutus.
Aujourd'hui encore, on ne sait pas expliquer avec certitude les origines de cette manie dansante. Je tiens à préciser d'ailleurs que cette histoire, c'est pas une légende, c'est même le phénomène de ce type le mieux documenté. Dès 1526, des personnes se sont penchées sur ce cas, comme par exemple Paracels, qui est le père de la toxicologie. Et fait un peu marrant, pour lui, c'est une révolte des femmes contre la tyrannie conjugale qui s'est manifestée par cette folie. Mais bon, même si la fièvre dansante de Strasbourg a marqué les esprits, il faut bien sûr prendre toutes ces informations avec des pincettes, parce que cette histoire a 500 ans, et que les faits ont sûrement subi les déformations inhérentes au temps qui passe. J'espère que cette chronique vous aura plu, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine.